VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au Soudan du Sud, l'ONU revoit à la hausse le bilan de l'attaque d'un camp de déplacés à la mi-février dans un rapport publié aujourd'hui. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA annonce au moins 25 civils tués et 120 blessés par des hommes armés portant des uniformes de l'armée gouvernementale sud-soudanaise. L'ONU avait dans un premier temps fait état de 7 morts et une quarantaine de blessés dans l'attaque de ce camp proche de la base onusienne de Malakal, la capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil, dans le nord-est du Soudan du Sud. L'ONG Médecins sans frontières avait, elle, parlé d'au moins 18 morts et 90 blessés. L'ONU a recensé l'année dernière 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus. Le rapport annuel du secrétaire général Ban Ki-moon note une nette augmentation par rapport à 2014 où il y avait 52 cas et 2013 avec 66 cas. D'après l'AFP, ces cas sont concentrés sur deux pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le rapport recommande de créer des cours martiales in situ pour juger les coupables et de prendre des empreintes génétiques des casques bleus. Elles avaient été bannies de l'école pour être tombées enceintes durant l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Eh bien, 5000 jeunes filles et fillettes ont repris le chemin des classes. La nouvelle a été annoncée hier par le ministre de l'Éducation, Brima Touré. Toutes les écoles avaient été fermées entre juin 2014 et avril 2015 dans le cadre des efforts du gouvernement pour freiner la propagation du virus Ebola qui a tué près de 4000 personnes dans le pays. Des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années. Les précisions, Lionel Gaïma.
Ils sont une dizaine de membres de l'équipe de réponse aux désastres de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à avoir débarqué à Addis Abeba cette semaine. Leur mission, coordonner la réponse américaine à la sécheresse qui dévaste l'Éthiopie. Ils seront rejoints dans les prochains jours par des spécialistes de la logistique, des nutritionnistes et des experts en eau et assainissement. Il s'agit pour l'administration américaine de prévenir un désastre humanitaire majeur en Éthiopie et de préserver les gains chèrement obtenus par ce pays en matière de développement, a expliqué l'administratrice de l'USAID, Gail Smith, dans une déclaration. Lors de sa visite de l'année dernière en Afrique, le président Barack Obama s'était rendu en Éthiopie. Il a fait de la sécurité alimentaire une des priorités de sa politique en matière de développement, déclarant en 2013 que mettre un terme à la famine en Afrique relevait d'un impératif moral.
Grave accident de la route au Zimbabwe. Au moins 30 personnes ont été tuées et 36 blessées dans la collision d'un autocar avec un minibus sur la route principale entre la capitale Harare et Bulawayo au sud-ouest du Zimbabwe, selon la police locale. L'accident serait dû à la perte de contrôle d'un des véhicules qui a envahi la chaussée opposée après la crevaison d'un pneu, selon les premiers éléments de l'enquête.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et on en arrive au magazine de ce journal. 33 candidats s'affrontent dimanche lors de l'élection présidentielle au Bénin. Le président sortant, Thomas Boni Yayi, ne se représente pas après deux mandats, conformément à la Constitution. 5 favoris, le premier ministre sortant, Lionel Zinsou, 2 des plus gros hommes d'affaires locaux, Patrice Talon et Sébastien Ajavon, et 2 banquiers internationaux, Abdoulaye Bio Tchane et Pascal Irénée Koupaki. Et l'enjeu majeur, ce sont les attentes sur le plan socio-économique. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Cotonou le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo.
Après 10 années de gouvernance du président Boni Yayi, le Bénin fait face à une crise morale, crise éthique, à un effondrement de sa vie politique, du système partisan. Et l'enjeu majeur, c'est de trouver les bonnes réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent dans le pays et au fond de savoir quel est parmi tous ces candidats celui qui est capable de porter l'aspiration. Les aspirations des Béninois et de trouver des approches de solutions aux problèmes, surtout aux problèmes économiques et sociaux qui s'opposent à notre pays.
Donc, le successeur constitue en lui-même un enjeu majeur.
Le successeur constitue un enjeu majeur parce que, comme vous le savez, heureusement ou malheureusement, l'élection va probablement se jouer contre les indépendants, parce que les 5 qui forment le quintet de tête, parmi lesquels je pense probablement que les Béninois choisiront le chef de l'État, ces 5 n'appartiennent pas à des formations politiques, c'est 5 indépendants, ce qui projette encore plus violemment la crise du système partisan béninois, que désormais le Bénin semble fonctionner comme une démocratie privée, une démocratie personnelle, où seules les ambitions personnelles, seules les aventures personnelles triomphent parfois de l'organisation des partis politiques. Donc cet enjeu a vu quand même à la classe politique béninoise complètement reconfigurée, d'autant que vous avez la majorité au pouvoir qui s'associe à l'opposition, ou vice-versa, l'opposition qui s'associe à la majorité pour soutenir un candidat, Lionel Zissou, en face duquel vous avez plusieurs autres hauts cadres du pays et parfois des magnats, ce qu'on appelle des opérateurs économiques qui tiennent un peu le poumon économique du pays. Donc vous avez en gros une élection qui va se jouer malheureusement en dehors des formations politiques, parce qu'aucun parti politique n'a présenté le candidat sorti de ses rangs. C'est pour moi un signe de l'échec de notre système partisan et de ce que l'élection qui va se jouer et le mandat qui va s'ouvrir à partir du 6 avril est un mandat de chantier, est un vrai mandat de chantier. Et celui-là doit avoir l'intelligence nécessaire pour rassembler les Béninois, mais surtout pour trouver les solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent à notre pays.
Est-ce que les règles de jeu sont-elles verrouillées?
L'élection au Bénin est très ouverte. Elle est très ouverte. Personne ne peut dire, je ne connais vraiment pas d'analyste qui peut avancer que tel gagnera et tel ne gagnera pas. C'est pour vous dire que le jeu est ouvert et que malgré le contrôle de la Sénat par les institutions ou parfois on dit par la majorité, on ne peut pas dire que le président Boni a verrouillé le jeu pour que triomphe son candidat. Personne ne peut le dire. C'est une élection totalement ouverte, je dirais incertaine. Et c'est ça qui fait parfois la beauté de la démocratie.
Joël Aïvo joint donc à Cotonou dans le cadre de l'élection présidentielle de dimanche. Ce journal se poursuit avec la présidentielle au Tchad. C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va se prononcer sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidats recalés figure l'opposant historique Ngar Léji Yoronga et l'ancien premier ministre de transition Fidel Munga. Voici la réaction du professeur Ahmad Mohamed Hassan, constitutionnaliste et enseignant à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yoronga Ngar Léji, ou bien pour d'autres également, pour ceux qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Et puis, le professeur Ahmad Mohamed Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. L'Algérie a mis en garde hier contre une nouvelle intervention militaire internationale en Libye après celle de 2011 et elle a réaffirmé son attachement à une solution politique à la crise que traverse ce pays voisin, Idi Sango.
Pour le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, toute autre intervention militaire en Libye engendrera davantage des destructions et des pertes humaines. Depuis une dizaine de jours, les informations se multiplient sur la présence des membres des forces spéciales françaises, américaines ou britanniques en Libye, un pays déchiré par des violences entre factions armées depuis la chute en 2011 des Kadhafi et divisé entre deux autorités rivales. Le chaos en Libye a favorisé la montée en puissance de l'organisation djihadiste État islamique qui occupe Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli, et cherche à étendre son influence, ce qui inquiète beaucoup les Occidentaux.
Ici aux États-Unis, un nouveau débat télévisé dans la course à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires Donald Trump a subi les attaques répétées de ses adversaires des primaires républicaines. C'était hier soir, Michel Joseph.
De 17 candidats au départ, il n'en restait que 4 à Détroit ce jeudi soir pour le 11e débat des primaires républicaines diffusé sur la chaîne Fox News. Donald Trump a été attaqué immédiatement sur sa carrière d'homme d'affaires. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, s'est attelé à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'Empire Trump ou le procès civil d'ex-étudiants de l'ex-université Trump qui vendaient des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive. Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori qui peine à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bel et bien l'un des leurs. Apparemment consterné par le niveau de la discussion, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, s'est présenté à nouveau comme le candidat le plus raisonnable.
Merci Michel. Fin de ce journal. Le prochain vous sera présenté par Harry Francisque dans 50 minutes. Jean-Roger, bon après-midi.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.